Bienvenue dans le podcast d'Anastasis. Cette série est consacrée au Festival des Poussières qui a eu lieu cet été, du 25 au 27 août, dans le Eco-Hameau de Goshen. Cette table ronde est consacrée à la question de la pauvreté et à trois appels que nous entendons dans l'Évangile. Un appel à nous mettre à l'écoute des plus pauvres pour entendre la voix du Christ à travers eux. Un appel à construire le royaume en luttant pour la justice et en éradiquant la misère. Un appel à nous faire nous-mêmes pauvres. Comment répondre à ces trois appels? Pour y réfléchir, Gabriel Amieux, Guillaumette Hin et Sylvain Mansart, et la table ronde est animée par Guillaume Dezonnet.
Donc voilà, enfin il nous a semblé qu'il y avait trois appels à la pauvreté dans l'Évangile. Le premier, c'est l'appel à se mettre à l'écoute des plus pauvres de la société. Parce que le Christ passe son temps à s'identifier à eux. Donc voilà, c'est Matthieu 25 par exemple. Et le Christ en gros dit, s'identifie souvent aux pauvres. Donc pour écouter le Christ, il est nécessaire d'écouter les pauvres. Ça serait premier appel, de se mettre à leur écoute. Deuxièmement, il y a le côté, l'appel à la lutte contre la misère. Il y a toujours le côté, le construire le royaume, c'est lutter pour la justice. C'est Zachée qui redistribue ses richesses, c'est les intendants qui donnent la nourriture à ceux qui en ont besoin, etc. Donc il y a toute une partie lutter contre la misère et lutter contre la grande pauvreté. Et le troisième appel, c'est l'appel à devenir nous-mêmes plus pauvres, qui est quand même omniprésent dans l'Évangile, qui est troublant, parce que c'est un peu étrange. Mais voilà. Et on pense que ces trois appels ne sont pas forcément dissociables. Deuxième point de réflexion qu'on a eu, c'était de se dire, il y a eu un reproche socialiste à partir du 19e siècle qui a été fait à la charité chrétienne et que nous on veut prendre au sérieux, qui invite à ne pas aider les pauvres mais à faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. En gros, les socialistes ont dit ça, mais c'est si vous faites l'aumône, vous aidez les pauvres, mais en fait ils restent pauvres et vous restez riches, vous détruisez pas l'inégalité, vous touchez pas aux structures. Il y a un problème en fait. C'est hypocrite d'une certaine manière. Et donc, nous, on prend au sérieux ce reproche qui a été fait par le socialisme à la charité. Et on pense que ça doit être intégré dans notre lecture de l'Évangile. Voilà, le deuxième point, c'est le côté on a peur de l'indécence des catholiques, de nous en fait, des catholiques bourgeois français à parler de pauvreté. Et le troisième point, c'est qu'on est aussi embarrassé par la mode des théologies de la prospérité qui a, alors plutôt dans des églises évangéliques mais un peu aussi chrétiennes, avec l'idée que un peu catholique pardon de... je retire totalement cette phrase mais en gros voilà, il y a une sorte de mode de l'idée que celui qui suit Dieu de la bonne manière va être enrichi par lui et va finir peut-être thune. Et en fait, c'est une théologie qui, en plus, a du succès parfois dans les catégories les plus pauvres, notamment au Brésil, en Afrique en particulier. Mais il y a un côté un peu bizarre où il y a des très riches pasteurs qui enseignent à des gens très pauvres qu'ils vont devenir peut-être thunes grâce aux dons qu'ils font à l'église et à leurs prières. Et bon, voilà, nous, on a l'impression que c'est assez déviant comme théologie. Donc voilà, c'était les trois petits points d'attention. Je vais pas plus parler pour cette intro. Donc je vous présente nos trois intervenants. Donc Guillaumette Hin, qui est donc médecin en prison et qui vit en quartier populaire. Sylvain Mansart, qui est prêtre, proche de, on va dire, la théologie franciscaine. Et qui a écrit un livre récent intitulé « De la domination à la fraternité sublime avec la création ». Voilà. Et Gabriel Amieux, donc qui est syndicaliste à Solidaire et salarié du Secours catholique et membre d'Anastasis. Donc je propose de leur donner la parole à tous les trois, en commençant par Sylvain.
Juste un petit mot sur la composition, comme on parlait un peu de premier concerné, de voilà. C'est un échec quand même, je veux le dire, parce que c'est un échec pour nous d'avoir cette composition de table ronde. On a un peu, on l'a remaniée à plein de moments. On voulait qu'elle soit paritaire et c'était important pour nous. finalement, comme on n'a pas trouvé, on m'a mis. Mais enfin, comme on a un peu, on a galéré, on a fait ça un peu à l'arrache, on m'a mis là-dedans. Mais voilà, en gros, je voulais quand même le dire comme préliminaire parce que c'était quand même important.
Donc bonjour. Donc voilà, donc je suis Sylvain. Je suis de Amiens, nord de la France là. Et depuis 2 ans, 3 ans, j'ai découvert le réseau Saint-Laurent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui essaye de regrouper des fraternités, des associations, des groupes qui travaillent à partir des personnes en grande précarité en France, des personnes en situation d'exclusion aussi, donc précarité sociale, mais aussi psychologique, etc. C'est un réseau vraiment dynamique, très beau. On est vraiment à la rencontre et solidaires les uns des autres pour essayer de trouver des solutions et avancer ensemble avec les personnes les plus exclues. Et c'est une très très belle expérience. Donc c'est aussi avec cette expérience que je viens ici. Et après, je vais dire un petit mot quand même sur le livre que j'ai écrit. Mais après, je vais prendre des citations aussi de personnes en situation de précarité que nous rencontrons et à qui on donne la parole et la place. Ça va ? Mais donc, du coup, voilà, on a 10 minutes, enfin un peu chacun, donc c'est un peu un défi. Hein, voilà. Donc, sachez avant tout que vous serez sans doute déçus. Parce qu'on ne va pas pouvoir tout dire ni tout répondre aux questions. Donc voilà. Moi, j'ai travaillé un peu la question de la pauvreté à partir de Laudato Si, donc du document du pape François, et de la figure de Saint François d'Assise, qui donne un peu un exemple et un modèle de sobriété, de décroissance, de fraternité, dans le contexte qui est le nôtre, celui d'une crise sociale et environnementale que nous connaissons. Et du coup, là, je vais vous présenter simplement trois aspects de la pauvreté évangélique que François d'Assise a épousé. Mais il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Alors, le premier, enfin, c'est en fait l'origine de la pauvreté évangélique qu'il a vécue. Je me suis demandé, voilà, c'est intéressant de se dire, on reçoit ces trois appels à vivre la pauvreté dans l'Église, en tant que chrétien, de où ça vient. Et François, il y a trois sources qu'on peut repérer, et je trouve intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Et la première, c'est sa foi au Christ. Et il a rencontré le Christ, il a eu une expérience spirituelle devant le crucifix de Saint Damien. Je crois que vous savez peut-être son histoire. Et il a été touché par la compassion de Dieu et l'amour de Dieu devant cette croix. Et ça l'a rejoint dans son histoire. Donc ça, c'est sa première expérience. L'amour inconditionnel de Dieu et sa compassion pour tous les hommes et pour toute sa création. La deuxième expérience, c'est une rencontre avec un lépreux. Donc c'est une rencontre personnelle qu'il a fait avec une personne d'exclusion. Il l'a rencontré, il y a eu un baiser, un échange, et puis cette rencontre a changé sa vision des choses et son expérience même spirituelle. Et la troisième chose, c'est sa situation historique. Donc il était en situation, enfin à l'époque, il y avait des guerres, des conflits dans le monde médiéval, et lui était touché par la situation, on pourrait dire les cris de l'époque. Ça va ? Et donc c'est à la suite de ces trois expériences, une expérience spirituelle, une expérience humaine forte et une expérience contextuelle que François a choisi d'épouser Dame Pauvreté et de tout quitter pour suivre, pour rejoindre les plus pauvres et pour vivre la sobriété radicale. Et donc je trouve que nous c'est intéressant aussi de se dire, ben voilà, on est dans un contexte. Il y a des choses qui nous parlent. Des fois, on pleure devant une situation. Et aussi, on fait des expériences spirituelles et on rencontre des gens. Et c'est cette situation-là qui fait que nous pouvons choisir la pauvreté. Sans cette compassion et cet amour, il me semble que la pauvreté évangélique n'a pas de sens. Non, voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le style de vie qu'il a épousé, c'est-à-dire comment il a vécu cette pauvreté. Alors, évidemment, on disait que le mot pauvreté, c'est un peu galvaudé, parce qu'il y a la pauvreté à combattre, la pauvreté subie, et il y a la pauvreté à choisir, à vivre. Alors, dans la famille franciscaine en général, on peut parler de désappropriation plutôt que de pauvreté. Voilà, le François ou même le Christ s'est désapproprié, n'a pas en fait choisi la pauvreté en tant que telle, mais il a choisi de se désapproprier non seulement des biens, mais aussi de son statut, de son pouvoir et de son savoir même. Ça va ? Et donc il a épousé, François d'Assise a épousé le style de vie de Jésus, du Christ, qui, comme l'Écriture le dit, s'est vidé de lui-même, s'est désapproprié de lui-même pour vivre la compassion et l'amour dont je parlais au départ. Donc il y a quand même donc cette désappropriation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en a déjà parlé, mais elle concerne les biens matériels, pourquoi pas la propriété, même en tout cas chez les franciscains, elle est clairement mise en avant, mais aussi la désappropriation des statuts. Dans une fraternité franciscaine, il n'y a pas de supérieur, on est tous frères. Donc c'est assez important, donc désappropriation du statut, du pouvoir et de la domination des uns sur les autres. Et en dernier lieu, il y a la désappropriation de la mainmise, du contrôle sur nos propres existences. Et ça, c'est un point assez fondamental aussi, c'est-à-dire la désappropriation sur j'ai raison, j'ai tout, je contrôle tout et je vais maîtriser ma vie. Et donc, c'est plutôt la vertu d'humilité et d'abandon. Ça va ? Et donc ça, c'était mon deuxième propos sur la désappropriation. Et un dernier point, et c'est à mon avis le plus central, c'est que François d'Assise, comme le Christ, a changé de condition de vie. On pourrait même dire il s'est déclassé, quoi. Il était dans une classe bourgeoise et il a changé de classe sociale pour rejoindre la condition de vie des plus pauvres. Donc il est allé vivre avec, et plus que vivre avec, vivre comme les plus pauvres, par solidarité, par compassion, et pour faire un chemin de fraternité avec eux. Donc ça, c'est quand même le point. Je vais citer quand même un épisode intéressant, qui est l'épisode du baiser aux lépreux. En fait, je ne vais pas citer l'épisode du baiser aux lépreux, mais un frère franciscain qui le commente. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il dit ceci, le frère franciscain, il dit... L'épisode du baiser aux lépreux n'est pas à lire dans la littéralité de l'événement, mais comme rencontre exemplaire qui témoigne d'une conversion radicale. C'est avec les lépreux que François apprend la vie fraternelle, c'est avec les lépreux qu'il apprend à vivre la pauvreté, c'est avec les lépreux qu'il pose les fondements de ce qui sera la manière de vivre qu'il proposera aux frères qui le rejoindront. Ce n'est pas seulement un lépreux qu'il embrasse, mais leurs conditions de vie concrètes. Ça va ? Et donc, c'est un aspect, à mon avis, de la pauvreté évangélique que nous sommes appelés à vivre comme chrétiens, c'est-à-dire vraiment un partage de vie avec les personnes les plus retirées et les plus exclues. À partir de cette expérience, il y a, comme vous connaissez sans doute, donc j'en parlais au départ, dans le réseau Saint-Laurent ou dans d'autres milieux, ATD Quart Monde notamment, il y a cette conviction qu'en vivant et en partageant la vie de personnes qui sont marquées par la grande précarité, il y a un savoir qui nous est donné de ces personnes, une sagesse, une expérience et une espérance même qui est absolument unique. Et donc, voilà, l'idée, c'est de cheminer avec eux et de se mettre à l'écoute de leur vie et de leur expérience. Et donc, je vais vous citer pour finir, parce que je ne vais pas parler trop longtemps quand même, pour finir, je vais vous citer quelques paroles de ces personnes que nous avons rencontrées en France et qui vivent dans des situations de grande précarité et qui témoignent un peu de leur souci pour l'écologie, de leur souci pour la justice sociale, de leur souci de la spiritualité aussi, et pour montrer comment voilà, leur parole a tout leur sens pour que personne ne soit oublié. Alors la première parole, c'était à Lourdes, lors des rassemblements avec les évêques autour de Laudato Si en 2021, où les évêques ont invité justement des groupes de personnes en grande précarité. Et il y en a une qui disait ceci. Si tu respectes pas la terre, tu respectes pas ton frère. La terre, elle t'appartient comme elle appartient à tes frères. Faut la protéger, l'aimer, la chérir, et c'est pareil pour tes frères. Mais ça, c'est la fraternité qui parle. Fin de citation. Que faisons-nous de la terre qui nous est confiée ? Françoise disait, ce qui est bizarre, c'est qu'on arrive à décrypter la nature avec la biologie et tout, et on voit qu'en fait, c'est très fragile. Et pourtant, on vit dans le monde et c'est la destruction de masse. Une autre personne disait, la semence, ça nous permet de nous nourrir. Le pain, le vin, on en profite. Ça nous donne la vie, mais en la respectant et en la partageant. Une question sur le réchauffement climatique, et une personne disait, avec l'actualité, on n'y comprend rien. Mais il y a des solutions. Faut avoir confiance, faut arrêter d'avoir peur, et on n'est pas maître de tout. Ce qu'on peut faire, je pense qu'on est loin de la nature et des animaux aussi. C'est important qu'on soit proche de la nature et en contact plus régulier avec les animaux. En fait, si on fait ça, on retrouve la joie et on retrouve la simplicité. Une parole d'espérance. Il y a quand même des bonnes associations. Moi, je crois que la jeunesse est sensibilisée. Il y a de la ressource. C'est plein d'espérance. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Et une dernière, peut-être un dernier texte quand même, qui est assez beau aussi, que je trouve, sur la pauvreté, plutôt, on va dire, l'humilité. Je vous cite cette parole. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années et elle a été terrible. Mais maintenant, je suis enfin désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison. Je suis désarmé de me justifier en qualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accepte et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente des meilleurs, ou bien plutôt non, pas meilleurs mais bons, j'accepte sans regret. Moi, j'ai renoncé à tout. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus jamais peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre à l'amour qui fait toute chose nouvelle, alors l'amour efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est toujours possible.
Merci. Bonjour, et moi je m'appelle Guillemette, j'ai 30 ans, je viens de Brest en Bretagne. Et je viens parler aujourd'hui sans aucune expertise particulière, autre que le fait que je sois une chrétienne God lover engagée. Voilà. Et parler de la pauvreté et des pauvres, toi tu as parlé d'indécence, et en effet moi je me trouve très illégitime pour parler de ça, parce que je le suis très peu. Et tu as soulevé un peu trois points, donc que je vais reprendre. En commençant par le dernier, cet appel à se faire pauvre. Alors c'est vrai que moi, vraiment, je ressens cet appel à me faire pauvre, un peu comme pour se vider, pour avoir de la place, pour accueillir Dieu. Mais cette pauvreté, la pauvreté que je recherche, elle est lucide, parce que je sais justement, comme on a dit, qu'elle ne ressemblera jamais à la pauvreté des vrais pauvres qui vivent dans une misère non choisie. Déjà parce que j'ai une richesse socio-culturelle, de par mon éducation, et que même si un jour je viens à manquer, eh ben, j'aurai toujours des amis ou de la famille qui seront là pour m'aider si besoin, quoi. Donc en fait, c'est comme si je cherche à m'appauvrir toujours, mais une pauvreté ajustée, en accord avec qui je suis, et en paix aussi avec le fait que je sois une privilégiée au départ, quoi. Voilà. Et donc dans les figures de pauvreté qui m'ont marquée, évidemment Saint François d'Assise, dans sa pauvreté matérielle radicale, quoi. J'avais lu un livre il y a un moment extraordinaire où il y avait un frère franciscain qui vient voir Saint François pour lui dire qu'il veut posséder un psautier. Donc c'est même pas la Bible en entier, c'est vraiment juste le psautier. Et Saint François lui dit ben non, parce que si tu le possèdes et si on te le vole, tu auras de la haine contre ton frère, quoi. Donc en gros, cette pauvreté pour pouvoir aimer tout le monde. Et ensuite, plus tard, j'ai lu un texte de Madeleine Delbrel, une femme extraordinaire, qui parle de la pauvreté comme du détachement. Alors évidemment, le détachement matériel, mais aussi, elle va au-delà, elle dit le détachement de nos habitudes. Et donc là, ça peut être énormément de choses, quoi. L'habitude de comment on gère notre vie quotidienne, de comment on organise notre maison, de quels objets on utilise, l'habitude d'avoir notre cercle d'amis, cercle social autour de nous. Peut-être l'habitude d'une certaine reconnaissance sociale. Par exemple, moi, je suis médecin, donc voilà, on me respecte, etc. Et aussi l'habitude de gérer notre emploi du temps quotidien. Et en fait, si on se détache de tout ça, eh ben, on devient plus disponible pour accueillir ceux qui viennent, en fait. Voilà. Et il y a aussi une figure d'un couple qui m'a marquée, que j'avais rencontré à Marseille, qui vivait vraiment une vie d'abandon à la providence. Alors sans rentrer dans tous les détails, mais ils avaient raconté, témoigné que quand ils s'étaient mariés, pendant un mois, ils avaient vécu dans un appartement avec un matelas au sol, sans couverture, ils dormaient avec tous leurs habits le soir, il faisait froid, etc. Et tout simplement, en se disant que c'est pas grave s'ils manquaient, que Dieu pourvoirait à ce dont ils auraient besoin, et que l'essentiel, c'était pas dans la possession, quoi. Et ça me fait penser à une phrase de Je crois encore Madeleine Delbrel, qui dit... Quand quelque chose nous manque, remercions Dieu de nous priver de quelque chose qui n'était pas lui. Voilà. Donc un peu toutes ces figures et ces textes qui m'inspirent pour rechercher cette pauvreté tout au long de ma vie. Voilà. Et ensuite, l'autre point, c'était se mettre à l'écoute des plus pauvres. Alors, il y en a de toutes sortes, les pauvres, évidemment. Et moi, particulièrement, ceux qui m'ont touchée dans ma vie, c'est les prisonniers. En fait, quand j'étais étudiante à Brest, avec l'aumônerie des étudiants, j'ai pu découvrir l'aumônerie de la prison en allant à la messe en prison. Et je m'y suis engagée. Et ensuite, j'ai pu faire un stage de médecine en prison. Et là, ça a été vraiment une révélation. en fait, mon métier a vraiment pris tout son sens. Et j'ai été touchée par ces détenus qui, extérieurement, peuvent être un peu impressionnants, intimidants. Ils ont commis des délits, des crimes, etc. Et ils peuvent être violents, etc. Et pourtant, ils me sont apparus un peu comme des personnes perdues en manque d'amour. En fait, je me suis dit, c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent là. Enfin, pour la grande majorité d'entre eux, ils sont issus de milieux hyper défavorisés. Ils sont nés dans des familles de parents violents, violeurs, toxicos, qui les ont abandonnés, négligés, etc. Et donc forcément, ils n'ont pas grandi avec, avec l'amour de parents et la sécurité nécessaire pour se construire bien. Ils ont grandi dans la rue, où c'est la règle, la loi du plus fort. Donc c'est ça qu'ils apprennent. Et bah, sauf qu'après, quand ils grandissent, bah, c'est plus adapté à la société. Et paf, ils se retrouvent en prison, quoi. Et du coup, bah, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens évitent d'arriver en prison ? Au-delà de tout ce que le gouvernement pourrait faire ou ne pas faire, etc. Je me suis plutôt posé la question de moi, face à une injustice qui me touche, qu'est-ce que je peux faire à la hauteur de mes moyens et de mes limitations pour changer les choses, quoi. Et comme je disais, souvent, ces gens issus de milieux défavorisés ont grandi dans des familles où il leur a manqué pas mal de choses. Et ben, je me suis dit que la clé, c'était peut-être chez les enfants de ces milieux défavorisés qui traînent dans la rue, d'aller passer du temps avec eux, quoi. D'aller les aimer gratuitement, parce que pour le plaisir de passer du temps avec eux. Un amour gratuit et un amour durable. Parce que j'imagine qu'en grandissant, ils commencent à commettre des bêtises, et puis ils en commettent de plus en plus, etc. Et peut-être que les gens un peu ressources autour d'eux eh ben, se détournent d'eux progressivement, parce que c'est tout le temps la même chose, et que finalement, ils reviennent toujours à la même chose, etc. Et voilà, je trouvais que c'est important d'avoir un amour gratuit et durable, finalement à l'image de Dieu qui nous pardonne nous continuellement les péchés qu'on fait encore et encore et toujours les mêmes. Voilà. Et sur ces réflexions, mon accompagnateur spirituel du moment m'avait envoyé à la Maison Bernadette à Marseille. C'est une association dans les quartiers nord de laïcs qui vivent la fraternité. En fait, donc des chrétiens qui sont au milieu d'un quartier 99% musulman. Et là-bas, on joue avec les enfants dans la rue, on fait du soutien scolaire, on va visiter les familles. Et voilà, j'ai découvert cette association. Et j'ai découvert, on va dire, la compassion. En fait, une certaine humilité de passer de « j'ai envie de changer le monde, de changer toutes ces injustices, etc. » Ah, finalement, j'ai plus un objectif d'efficacité, mais juste d'aimer gratuitement et inutilement. Devenir serviteur inutile. Parce que c'est l'amour qui est le plus important. Et par exemple, si on doit faire du soutien scolaire avec un enfant, mais qu'on sent qu'il n'est pas bien et que ce n'est pas le moment, et bah, tant pis les devoirs et on passe du temps pour discuter avec lui. Ou si dans notre emploi du temps de la journée, justement, on a un peu des tâches, mais qu'il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a besoin de parler, et ben tant pis ce qu'on devait faire, le plus important c'est d'être avec la personne, quoi. Voilà. Et autre chose très belle que j'ai découverte là-bas, c'est que en fait c'est possible de vivre avec des gens très différents, que ce soit par la culture, la religion, le milieu social, les idées politiques, etc., s'il y a une amitié, en fait. Voilà. Et donc dernier point, lutter pour la justice. Moi je pense qu'il y a deux moyens un peu de lutter pour la justice, soit par le haut, par la politique, en touchant beaucoup de personnes mais en pratique en changeant pas grand chose, ou par le bas en ayant une grande portée sur seulement certaines personnes en changeant beaucoup leur vie, mais ça touche pas tout le monde, quoi. Bref, il y a un peu les deux côtés. Moi clairement j'ai reçu les talents pour agir d'en bas, donc forte de cette expérience de Marseille, en rentrant à Brest, je me suis installée en quartier populaire. Et tous les samedis après-midi, avec des étudiants et jeunes pros, on allait prier dans l'église du quartier. Et ensuite, on allait jouer avec les enfants dans la rue et faire des visites aux voisins du quartier, quoi. Mais vraiment, les visites, c'est on sonne et on dit bah, bonjour, on est des jeunes qui habitons le quartier. Et puis, on veut faire du lien social. Voilà, on vient à votre rencontre. C'est un peu bizarre, mais en fait, ça a fonctionné. Il y a une amitié qui s'est progressivement développée de fou, quoi. Moi, j'habite dans le quartier et j'avais mes voisins qui, toutes les semaines, même plus qu'une fois par semaine, venaient me donner à manger. Les enfants qui débarquaient chez moi pour discuter, pour faire leurs devoirs, pour faire de la musique. Voilà. Et c'était très beau. Alors, c'est une toute petite œuvre, finalement, mais je trouve qu'elle incarne vraiment ce qu'il faut pour lutter pour la justice. C'est-à-dire que ça fait des ponts entre les gens, en fait. On a parlé tout à l'heure. Je trouve, enfin, moi, je connais dans mon entourage des gens d'origine très diverses, avec des orientations voilà, politiques, etc., très diverses. Et chacun a un peu son idée sur quoi faire pour que le monde aille mieux. Sauf qu'en fait, ils restent tous dans leur coin et ils discutent pas entre eux, ils se rencontrent pas, quoi. Et pour moi, vraiment, c'est ça qui est le plus important. Comme je disais, c'est le lien, quoi. Cette fraternité entre des gens très différents. Et aussi, le fait de se dire, voilà, on abolit un peu ces barrières de t'es riche, t'es pauvre, privilégié, etc. Moi, je suis juste allée vivre dans ce quartier pour vivre avec ces gens parce que c'était kiffant. Voilà. Et autre chose pour moi qui est important dans cette lutte pour la justice, évidemment, aimer les pauvres. Mais en fait, il faut juste aimer tout le monde, quoi. Et pour moi, par exemple, c'est passé par aimer les catholiques tradis d'extrême droite que je côtoyais. Parce que à Brest, c'est quand même une ville militaire, il y en a beaucoup. Et puis surtout, en fait, on a censé les mêmes valeurs, quoi, la Bible et l'enseignement de Jésus. Et non seulement les aimer, mais aussi en fait les inclure dans notre plan de lutte pour la justice. Parce que, comme je disais, tout le monde a ses idées très différentes, etc. Et j'ai l'impression que ce qui convertit plus, c'est l'amour que les discours. Moi, je peux avoir des débats interminables avec eux. Avec des supers arguments, et pourtant on reste chacun figé sur sa position, persuadé d'avoir raison, quoi, et ça fait pas avancer les choses. Et je me dis que, par exemple, Jésus dans la Bible, alors des fois il a des discours un peu culpabilisateurs envers les pharisiens, etc., mais j'ai l'impression que c'est quand il parle aux foules, et que par contre, quand il s'adresse, enfin, dès qu'il y a une personne en face de lui, il n'est que amour infini, miséricorde. Jamais il a une parole de jugement, quoi. Moi, j'imagine que c'est les gens, face à ce regard tellement plein d'amour, qui se convertissent. Voilà. Et du coup, je me dis qu'avec mes amis catholiques là, d'extrême droite, eh ben, peut-être que ce qui va les convertir, plutôt que mes beaux discours, c'est quand ils vont venir jouer avec les enfants, qu'on va faire des visites, et que là, on va à peine sonner chez quelqu'un, une famille étrangère, musulmane, etc., et que là, on va se faire accueillir avec tant de générosité, offrir le café, etc. Alors que quand, juste avant, on a sonné chez les voisins, très bretons, très craintifs, ils se sont demandé si on n'était pas des témoins de Jéhovah, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc voilà, peut-être que c'est la rencontre de ces gens-là qui va permettre de leur faire découvrir qu'en fait, on est tous frères. Et juste pour finir, une parole qui m'a marquée d'un prêtre de Brest, qui disait justement, lui, quand il était dans sa paroisse, où il y a des chrétiens de tous bords, et ben avec les guéguerres de paroisse habituelles, enfin bref, il disait la seule chose qui unit les chrétiens d'une même paroisse, c'est le service du plus pauvre.
Merci. Et ben c'est pas rien de passer après vous deux. Juste l'heure, ouais. Pour qu'on a commencé en retard. Hein, je vais essayer d'être rapide un peu là-dessus. Je suis un peu fatigué, du coup j'ai repris un peu les éléments de ce que j'avais préparé, un peu ce que j'avais perdu, en m'attachant à trois personnes en fait, qui marquent un peu ces trois appels que j'ai pu, enfin voilà, qui ont marqué ma vie, dont on a parlé déjà plusieurs fois. Je pense que le premier appel moi que j'ai reçu, c'est cette question de l'appel à la pauvreté, à la simplicité volontaire. Et je crois que je l'ai d'abord reçu auprès des amis de mes parents qui sont dans le coin, donc les primards et les gens de la communauté de mission de France avec qui j'ai grandi dans le sud de l'Essonne, qui ont choisi de se mettre dans un village, dans un petit hameau dans le sud de l'Essonne, dans les années 30, il y avait tout un tas de gens, des personnalistes, voilà, qui se sont dit, on va aller se mettre, des chrétiens, on va aller se mettre dans un petit village, on va vivre de très peu. Et dans les générations suivantes, il y en a qui ont créé une boîte qui s'appelle Maison Art Santé, c'est elle qui nous a prêté le camion, là, donc vraiment, on les remercie pour ça. Cette boîte, le principe, c'est que c'est une boîte normale, une maison qui fait du bâtiment, des artisans du bâtiment, et ils se payent tous au SMIC. Et il y en a qui sont là-dans les salariés. Un certain nombre sont des gens qu'ils ont récupérés de la rue, mais qui sont salariés pas en insertion au SMIC, en CDI. Et voilà, cette forme de vie-là, elle m'a d'abord déjà beaucoup marqué. Et je pense que c'est cette question de comment on suit Jésus en se mettant à sa suite de manière très concrète dans un compagnonnage avec les plus pauvres et en choisissant une simplicité volontaire. C'était le premier visage. Le second, c'est une fois que j'ai commencé à faire un peu en études et tout ça, j'étais quand même vraiment interrogé par la dimension systémique de des inégalités, de la pauvreté. Et là, il m'a semblé qu'on ne pouvait plus juste en rester à une dimension individuelle d'une conversion personnelle, d'une transformation de la simplicité volontaire, ni même un compagnonnage avec les plus pauvres, et qu'il fallait s'organiser, quoi. Et c'est ça, je trouve, c'est intéressant dans ce que tu as dit, Guillemette, et je pense que c'est un truc que c'est intéressant qu'on y réfléchisse, parce que c'est une vraie question pour moi dans les milieux chrétiens. C'est qu'on va dire, il y a le politique, et alors soit on en a un avis positif, soit un avis négatif, en gros, et on va dire, bon, bah, en gros, on délègue et c'est là-bas que ça se passe, soit on a l'individuel et en gros, on peut faire que des petites actions. Et moi, ce que j'ai découvert avec des camarades, c'est qu'en fait, on peut s'organiser, quoi. Et on peut s'organiser en mettant les premières et premiers concernés au cœur de notre organisation. Donc, c'est d'abord dans le syndicalisme que j'ai pu découvrir ça, moi, à Solidaire. D'abord à la branche étudiante et ensuite au boulot. Et voilà, et ça, c'est le deuxième visage, celui de Laura, justement, qui est une amie que j'avais invitée sur cette table ronde. C'est une des plusieurs invitées, quoi, qui ont refusé. Qui n'est pas chrétienne, mais qui a été une de celles qui m'ont marqué, justement, sur le fait de m'apprendre que le mouvement féministe avait bien permis de distinguer trois niveaux de système de domination, le système d'oppression, j'en parle, ça fait un petit écart, mais on va y revenir, hein. D'oppression, de un à un, mettre quelqu'un dans une situation qui l'oppresse, de discrimination, et là c'est quand un groupe est discriminé, et enfin de système de domination, de rapport de domination au niveau global. Donc par exemple, le patriarcat, c'est un rapport de domination. Et en fait, quand on a en tête ces trois niveaux-là, on pense comment on agit sur ces trois niveaux-là. Et c'est là où, en fait, ce détour par les camarades féministes, par les camarades syndicalistes, tout ça, m'a aussi permis de revenir à quelque chose que moi j'avais abandonné à un moment, c'était la question de me laisser interpeller par ce que disait la foi chrétienne. C'est qu'on n'en est pas juste à s'organiser, être le plus efficace possible pour faire péter le capitalisme, et en fait après tout ira bien, quoi. Mais qu'en fait ces trois niveaux coexistent, et qu'il y a à lutter en même temps comme on peut sur ces trois niveaux là et là dessus pour pouvoir faire ça, c'est pas évident. Alors du coup, j'ai envie de citer une citation que ma fiancée m'a apprise et que je trouve très chouette, d'Albert Camus, la longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Cette citation, je l'ai découverte du coup il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle dit bien ce qui a été mon retour à la foi par le militantisme. C'était ce sentiment à un moment de m'assécher, à me battre contre le capitalisme, contre le patriarcat, contre le régime écocidaire. Comment, au bout d'un moment, j'en parlais totalement, la question de la relation dont vous parliez, et aussi la question de moi, où est-ce que je trouve mes ressources. Et donc voilà, c'est à la fois le fait de comprendre qu'il y a ces trois niveaux auxquels il faut agir, et la question de mettre au centre de nos luttes l'amour, voilà, m'a fait revenir d'un engagement purement militant à une tentative d'allier la foi et militantisme. Et ce qui est arrivé ensuite, c'est un peu décousu, mais c'est le troisième appel qui est revenu, la question de l'écoute des plus pauvres. Et là, le troisième visage, c'est celui de Clémence, qui est là, je ne la regarderai pas pour ne pas la gêner, avec qui j'ai pas mal cheminé. Il y a deux visages, en fait. Celui d'Hélène qui parle là-bas, là, c'est l'autre conférencière. Elle est incroyable, elle aurait pu carrément être à cette place. Parce que Hélène, elle est bénévole au Secours catholique du 93. Moi, c'est le premier boulot où j'ai été. Et sa manière d'être profondément avec les plus pauvres et de se mettre à leur écoute, à leur école, dans la pratique, j'ai vu à quel point ça pouvait être enrichissant et donner du souffle et de l'esprit pour avancer dans les luttes aussi. Et parce que par ailleurs, Hélène, voilà, bah, elle est capable de faire une conférence d'une heure et demie sur la théologie des luttes écologistes et sur plein de trucs, en fait. Elle arrive à la fois se mettre au service et puiser de l'énergie là-dedans. Et Clémence, j'espère que vous le discuterez avec elle, c'est quelqu'un qui m'a montré comment on pouvait se nourrir spirituellement, en fait, de ce compagnonnage avec l'évangile et avec les plus pauvres. Et comment les deux ensemble, voilà, on pouvait justement trouver à cet endroit-là la nourriture pour la lutte, pour continuer à avancer. Je pense que... Je vais vérifier là, mais je pense que c'est bon.
Merci tous les trois. Je vais poser juste une seule question et après on vous mettra un petit. Enfin, je vous laisserai réagir et après on vous mettra un petit groupe. Vous mettez un petit groupe de combien vous voulez. Vous discutez et puis si après vous avez des questions ou des propositions, on vous donnera la parole. J'aurais juste aimé rebondir sur ce que Guimet a dit sur l'expérience de la prison, d'avoir rencontré des gens et après de se dire mais en fait quelles sont les causes de leur présence. Structurelle, à savoir voilà, peut-être des structures familiales un peu destroy, une discrimination économique massive, etc. En fait, il y a des causes qui sont d'ordre structurel et que c'est celle-là qu'il faut adresser à un moment. Et en fait, moi, ça me fait penser à un livre que Lucia, ici présente, m'a fait lire cette année, de Pierre Kropotkin, je ne sais pas si vous voyez, un auteur anarchiste du 19e siècle, où il imagine que quelqu'un devienne médecin pour voilà, bah, servir les gens, les soigner, etc. Mais en fait, la première personne qui vient soigner, il se rend compte que c'est une femme qui est malade parce qu'elle travaille trop, parce que son mari n'a plus de boulot parce qu'il a le dos cassé, qui vit dans un appart trop petit, qui n'a pas assez d'argent pour acheter de la bonne nourriture, donc il mange un peu de la merde, etc. Et en fait, il se dit, mais du coup, qu'est-ce que je vais lui conseiller pour guérir ? Bah, de changer d'appartement, de changer de nourriture, de réparer son mari, de travailler moins. Mais en fait, elle va me dire, bah, tout ça, je sais qu'il faut faire ça, mais je ne peux pas. Et donc, en fait, il se dit, si tu veux être un bon médecin, il ne suffit pas d'être un médecin individuel. Tu es obligé d'adresser les causes structurelles des maladies. Et du coup, tu dois rejoindre le socialisme révolutionnaire, en fait. Et je trouve là il y a ce côté qui est sorti un peu voilà, il y a le côté action interindividuelle avec des personnes et en même temps question des structures. Et il me semble que le mot qui est sorti peut-être pour aujourd'hui au niveau structurel, c'est toi qui as dit, c'était décroissance, en tout cas qui est déjà présent chez François d'Assise, mais même chez, je sais pas, chez Diogène, chez des philosophes païens anciens. C'est un sujet, à mon avis, très très ancien. Et donc, je sais pas si certains veulent réagir là-dessus. Une espèce de question de l'articulation entre la relation interpersonnelle avec des personnes en situation de pauvreté et la question de la lutte structurelle pour la modification des causes en fait de la pauvreté.
Juste là-dessus, ça me fait penser à un exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps d'un gros débat qui a divisé les salariés de la délégation du Secours catholique 93 sur la position à avoir sur les Jeux Olympiques. J'ai pas d'analyse en vrai là tout de suite, mais je trouve que c'est un truc qui est complexe quoi. C'est-à-dire les JO dans le 93, dans un an, en fait, on va avoir les villes dont je m'occupe, Saint-Denis, Saint-Ouen, Lille-Saint-Denis. En fait, ils vont virer tous les pauvres, enfin en tout cas tous les sans-papiers qui occupent des têtes sociaux actuellement. Il va y avoir des quartiers totalement bouclés avec des accès magnétiques. Ils vont mettre des filtreurs d'air et ils vont enlever les transports en commun. Enfin, ça va être un peu vénère sur l'attaque sur les plus pauvres dans le 93. Et à la fois, et donc nous, notre premier truc, c'est de dire, il faut dénoncer, on va pas se mettre dans ces trucs-là, machin. À côté, il y a l'église locale du 93 et d'autres qui viennent nous dire, ah, nous, on a lancé un truc, c'est les Holy Games, et on va faire des grands trucs pour les Jeux Olympiques et l'église, machin. Et on dit, ah, mais attends, les gars, on est où, quoi? Et voilà, et le truc très complexe sur la question de la relation avec les plus pauvres et la lutte pour la justice, c'est qu'en fait, quand on a été certain à prendre un peu le temps d'écouter ce que les gens qu'on accompagne disaient, et en fait, ils étaient tous là à nous dire, mais quand est-ce qu'on a des places pour les Jeux Olympiques? Quand est-ce qu'on fait du bénévolat pour les Jeux Olympiques? Quand est-ce qu'on s'investit et que c'est trop bien d'aller aux JO, en fait? Et que les JO soient là, on est trop contents. Nous, on est sans papier, on va galérer et tout, on va plus pouvoir, mais en fait, on veut être là. Et alors qu'on se retrouve dans ces trucs-là, ça questionne sur plein de trucs, sur quel positionnement avoir, sur comment on peut avoir un positionnement ajusté qui tienne les deux. Mais aussi, il me semble, mon cousin Samuel, c'est une autre personne qui m'a beaucoup marqué. Lui, c'est un gars, c'est un chrétien révolutionnaire, il est à fond, toujours dans toutes les actions, il reste jusqu'à la fin des manifs parce qu'il y a toujours un camarade qui peut se faire embarquer, du coup, il est là, machin. Mais il s'est rendu compte que des fois, dans les AG, les gens ils disaient un peu n'importe quoi. Il a été tout déboussolé, un jour il m'a dit, mais c'est quand même un dogme pas facile, l'infaillibilité du peuple. Et c'est vrai que, voilà, en tant que chrétiens qui veulent un peu se mettre au service des luttes populaires, on pourrait se dire qu'il y a une infaillibilité du peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand les désirs de ce peuple ne sont pas ceux qu'on attendrait? Voilà.
Bon, alors, je risque une réponse aussi sur l'attention de l'individu et du collectif. En fait, on l'a déjà abordé hier à la table ronde, à la conférence. On a une spiritualité qui souvent nous ramène à vivre les choses pour nous-mêmes, de manière individuelle, proche, et puis après le salut, c'est là-haut et c'est bon, quoi. Donc l'enjeu, c'est vraiment de vivre une spiritualité politique. Enfin, qui a une implication dans la vie concrète. Mais je crois que le style de vie de proximité avec les plus pauvres, la relation personnelle qu'on peut avoir avec les uns les autres et cette fraternité qu'on bâtit ensemble, les uns avec les autres, a une puissance politique sur les structures qui est très forte. Qui est pas directement, qui impacte pas directement sur la loi, etc., mais qui, je pense, change structurellement les choses, mais de l'intérieur, non? C'est-à-dire, je prends l'exemple de, ton exemple était très bon dans le 93, mais aussi là j'étais à Lourdes avec le réseau Saint-Laurent, et on était 1100 personnes de toute la France à se réunir, à partir et avec des personnes victimes de l'exclusion sociale, etc. Et petit à petit, le groupe augmente et lourde change de l'intérieur. Et il y a un groupe Parole et Place des Pauvres qui s'institue. Et petit à petit, on célèbre autrement, on vit Église autrement, on s'écoute autrement. Et ça change la structure à l'interne. Donc je crois que vraiment, en fait, donner la place et la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est une théologie politique. Vivre pauvrement, volontairement, par solidarité et par amour, ça a une implication politique aussi, parce qu'on bâtit une fraternité ensemble, où on n'oublie personne, ni les pauvres, ni la terre qu'on cultive, et les pélicans qu'on chante, hein, c'était ce matin. Les cormorans. Enfin voilà, mais la tension est là, quoi. Mais je crois que.
Moi, j'ai juste pas grand chose à dire, mais simplement, j'espère que j'étais pas en train de dénigrer la politique du tout, hein, quand je disais que voilà. Et je suis hyper d'accord que c'est très important, enfin que les deux sont très importants, quoi. S'interroger sur les causes structurelles. Évidemment, il faut le faire, et c'est pour ça que ici il y a tellement d'intellectuels qui se posent des questions et qui réfléchissent et qui étudient. C'est très bien, complémentarité. Mais après, je fais que de la redite. Et je pense que ce qu'a dit Gabriel est hyper important aussi, c'est d'écouter les plus pauvres, parce que des fois, ils n'ont pas du tout les mêmes idées que nous, et ce serait un peu peut-être, j'ai plus le mot, mais bref. Ouais, condescendant de penser qu'on connaît les réponses à leur place, alors qu'on est complètement à côté de la plaque, en fait. Donc voilà.
Ouais, sur la question de vraiment de l'éducation populaire et de l'éducation politique, parce que du coup, on est plusieurs à agir concrètement sur le terrain. Maintenant, on trouve ça assez insuffisant d'être OK présente et d'être à l'écoute dans une logique d'émancipation, dans une logique de transformation collective. Et où, quelle est notre responsabilité aussi, enfin, collective là-dedans, sans être dans la condescendance, parce que nous, on est plusieurs à avoir cette conscience-là, conscience de classe, conscience de système d'oppression dont vous avez parlé. Du coup, c'est aussi une responsabilité de porter ça pour que ça soit dépassé, quoi. Je sais pas si c'est clair.
Si. Merci beaucoup. On en parlait un peu, mais peut-être justement, Gab, tu veux réagir.
Ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus. Hein. Si vous levez la main, vous répondez à Camille.
Peut-être juste pour poursuivre, moi je donnais l'exemple d'une rencontre que j'ai faite avec une association brésilienne qui bosse dans les favelas de Recife, dans le Nord-Est. Et qui se mouille vachement plus en fait sur ces questions. Et je trouve que en tant que travailleuse sociale ou autre association, on peut être assez frileux justement par cette question politique, parce qu'on l'associe à la politique partisane. Mais du coup, la politique, c'est juste être ensemble dans la cité et s'occuper de l'organisation de la cité ensemble. Et je pense qu'on gagnerait peut-être certainement. En tout cas, moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, à s'engager davantage sur ces questions politiques. Collectivement, quoi.
Et est-ce que tu peux expliquer quand tu dis qu'ils se mouillent plus concrètement, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire faire prendre conscience aux jeunes des favelas des situations d'inégalité, des situations d'oppression, du système capitaliste dans lequel on grandit toutes et tous, et comment lutter contre ça, quoi. Mais à travers des actions concrètes d'animation de rue. Voilà. Et il y a eu un autre exemple, on parlait du coup de conférences gesticulées. On a parlé aussi de réappropriation de savoir sur sa propre santé. Qu'en fait, on sait plein de choses, mais on les oublie. Ou en tout cas, on ne fait plus confiance en nos propres connaissances de se soigner avec des plantes parce qu'on se dit que le médecin, c'est tout. Enfin, là, on a parlé un peu de tout ça.
Ben moi, c'est une question qui me travaille aussi pas mal. Notamment sur la question d'éducation populaire et de l'éducation populaire politique. Ça me parle bien ton exemple du Brésil. Moi, j'ai vécu un an en Colombie et j'étais dans un collectif d'éducation populaire là-bas. Et effectivement, il y a une dimension d'une éducation populaire politique hyper puissante en Amérique latine, avec Paulo Freire, avec, mais au-delà des grandes figures, des réseaux de collectifs voilà, qui sont dans les quartiers. Moi, j'étais un collectif d'éducation populaire où on préparait des jeunes au bac. Et en même temps, on faisait des ateliers, on était dans leur collège et on faisait des ateliers le samedi matin sur les questions de lutte politique et sociale. Bon, ça nous a fait qu'on a un de nos étudiants qui a été assassiné par la police l'année d'après. Mais donc ça pose quand même des fois des questions dans ces contextes troublés. Je reparle là comme ça, mais c'était vraiment dur. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait écho au fait que ce qu'on appelle éducation populaire politique en France, c'est beaucoup porté par des scopes d'éducation populaire. Et en fait, moi, j'ai été à des stages de ce genre de trucs. Et ben, il n'y avait pas tout à fait les gens qu'on vise là. C'était quand même pas mal des gens de classe sup. Ben, de toute façon, il faut s'inscrire, il faut payer. Souvent, c'est prix libre, mais il faut le savoir. C'est les bons réseaux, machin. Et pour moi, juste, il y a un truc là-dessus. Le premier truc que j'ai pensé quand j'ai écouté, c'était à tout ce qui s'est fait, enfin, toute la tradition du, à la fois de l'éducation populaire politique en Amérique latine, mais celle du syndicalisme en fait, et du community organizing, voilà, du syndicalisme en Europe, du community organizing aux États-Unis, et puis qui est revenu en France, l'idée d'organiser des communautés de vie, par exemple d'un quartier, sur les mêmes bases en fait que l'idée du syndicalisme, de on partage des conditions de vie et on va lutter à partir de ça. Voilà, et nos questions concrètes. Nos questions les plus concrètes au boulot, par exemple, on se rejoint sur un problème de paye, et ben on va lutter, on va commencer à prendre conscience des trucs communs là-dessus. On se rejoint autour d'un problème de poubelle dans la cité, et ben on va commencer à lutter là-dessus. Et pour moi, ça, c'est des vraies voies d'émancipation. Le problème, c'est que... Enfin, moi, je suis membre d'un syndicat de travailleurs associatifs, et dans lequel on a... Enfin, du coup, j'ai eu l'occasion de... travailler un peu sur les questions du financement des assos et tout ça. Et quand on voit que depuis les années 80 en France, ça serait intéressant d'avoir l'espérance belge, peut-être que c'est un peu différent, hein, comme il y a un digne représentant belge. Mais on a une évolution du mode de financement des associations, et notamment dans les quartiers, d'un financement de fonctionnement à un financement on finance les assos sur des projets qu'elles présentent, à maintenant de plus en plus des financements où c'est les collectivités qui font des propositions de subventions sur des projets qui flèchent, et du coup les assos s'adaptent aux volontés politiques des collectivités dont les couleurs politiques changent. Dans ce contexte-là, plus celui de la loi séparatisme de 2021 qui fout une pression de malade sur les associations en leur faisant signer un contrat d'intégration républicaine, voilà, on l'a vu avec l'exemple d'Alternatiba à Poitiers, dont le financement par la mairie a été mis en cause par la préfecture parce que Alternatiba organise des ateliers de désobéissance civile et qui sont quand même pourtant très gentils. Du coup, ça pose question sur nos marges d'action là-dedans, quoi. Et en tout cas, toi, t'es travailleuse sociale, moi je bosse au secours catholique. Est-ce que c'est dans ces lieux-là qu'on peut le faire? Est-ce que c'est toi dans ta cantine à Évry? Est-ce que c'est dans d'autres lieux encore? Mais du coup, enfin, voilà, on est aussi bloqué par ça. Et il y a une question à poser là-dessus. Voilà.
Alors, qui voudrait intervenir?
Dans notre groupe, la discussion a balayé un petit peu un petit peu tout le spectre peut-être de la question de la richesse et de la pauvreté. Il y avait, voilà, donc on a résolu tous les problèmes, si vous avez des questions. C'est surtout... Donc, il y a eu des premières interrogations, des interrogations sur comment est-ce qu'on évite de trop romantiser la pauvreté, parce que quand on vit des situations de vraies difficultés qui ne sont pas choisies, ça met dans des fragilités qui ne sont vraiment pas souhaitables. Il y a eu d'autres remarques sur comment nous, en tant que chrétiens, on aide en fait les pauvres, on est content d'aider les pauvres, et très souvent les témoignages qui vont avec ces expériences-là, c'est que ça nous fait du bien, ça nous convertit, les pauvres nous enseignent, tout ça. Mais que ce qu'on... Peut-être, est-ce que ce serait pas plus souhaitable? Est-ce que l'idéal... certains d'entre nous se demandaient si l'idéal c'était pas en fait que les pauvres s'organisent sans nous, qu'ils réussissent à s'émanciper sans que ce soit... nous qui avons tant reçu, qui de nouveau venons leur apprendre à s'en sortir. Et à l'autre bout du spectre, plutôt s'interroger sur la richesse, on se demandait, voilà, dans les milieux catho, plutôt cadre catsup chrétien, on a parfois un discours qui peut nous sembler, on entend parfois un discours qui peut nous sembler, en tout cas à certaines d'entre nous, qui semblait vraiment mensonger à force d'être beaucoup trop complaisant envers l'argent, qu'en fait les richesses c'était une question d'usage, qu'il n'y avait aucun problème, et alors que l'évangile nous dit l'inverse. Et en poussant cette ligne un peu plus loin, une des questions qui a été soulevée, c'est comment est-ce qu'on développe pas seulement un amour de dame pauvreté, mais aussi un véritable mépris pour la richesse, parce que dans l'évangile Dieu nous dit qu'on peut pas servir deux maîtres. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Et donc si on s'attache à Dieu, il y a peut-être une éducation au mépris de la richesse qu'il faut... C'est une hypothèse. Et quelles actions peuvent passer par là? Voilà, moi je vois le fait de péter une vitrine d'Apple comme un geste prophétique, le fait de brûler une Porsche comme un geste prophétique. Et je pense... Voilà, je me demande si c'est quelque chose qu'on peut discuter. Pas seulement voilà, cet amour de la pauvreté, mais en fait ce mépris de la richesse, et comment nous, dans le monde des chrétiens, et particulièrement dans ce monde des chrétiens cadre sup, qu'on peut parfois considérer comme trop complaisant envers l'argent, en tout cas peut-être pas aligné avec la radicalité de l'évangile là-dessus, comment est-ce qu'on porte une parole, quel geste on peut poser pour aussi casser cette idole?
Moi, je veux bien juste dire un truc auquel je suis en train de penser. C'est dans le passage des riches et de la veuve pauvre. Il y a en gros Jésus qui dit tout le monde regarde les riches qui mettent beaucoup d'argent, personne ne regarde la veuve pauvre qui met une piécette. Mais pour moi, le côté même brûler une Porsche, c'est encore trop regarder la richesse. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la veuve pauvre. Donc pour moi, le mépris de la richesse, ce serait pas forcément brûler la Porsche, parce que c'est-à-dire qu'on est obsédé encore par la richesse quand on brûle la Porsche. Pour moi, le mépris pour la richesse serait d'en avoir rien à faire, en fait.
Ouais, mais les marchands du temple.
Ouais, peut-être. Non, peut-être, ouais. En fait, le mépris pour la richesse, moi, personnellement, ça me fait penser à décroissance. Mais...
Si vous voulez en savoir plus, il a écrit un livre qui vient de sortir.
Il s'appelle
Le Christ Rouge, qui est en vente pas cher dans la bibliothèque qu'on a mis là.
Non, c'est cher parce que je veux me faire de la thune.
Il y a un truc à lequel je pense depuis le début, alors ça répond pas directement à la question, mais ça fait un lien avec pas mal de choses. Moi, je pensais à la diversification de nos engagements, quoi. On en a parlé un peu ensemble, et la diversité de manières de vivre la pauvreté, déjà, enfin choisie, et la manière de s'engager pour la lutte, pour la justice, pour l'écologie, et pour une spiritualité qui englobe tout le monde et toute chose. Et je pense que c'est intéressant de se le rappeler, quoi. Être à l'écoute des plus pauvres n'est peut-être pas donné à tous. Il y a aussi d'autres manières de travailler ensemble, en prenant en compte la situation et la réalité des personnes, mais de manière plus institutionnelle, plus politique, plus professionnelle, etc. Donc ça, c'est, je pense que c'est important de le ressouligner. En disant que c'est important de se mettre à l'écoute, ça ne veut pas dire tous on doit se mettre comme ça, à l'écoute, et oublier les capacités et la responsabilité, pour reprendre le mot, que certains ont dans leur travail ou dans leur situation. Moi, je pense, voilà. Et après, je rebondirais bien quand même sur la question du mépris de la richesse, l'amour de la pauvreté, mépris de la richesse. Je suis assez d'accord, personnellement, sur la question. Je pense qu'on ne peut pas choisir quelque chose et garder tout en même temps. À un moment, on doit trancher, quoi. Ça, c'est clair. Et ça demande... Mais, Mais le risque, selon moi, dans ce que tu disais de brûler la Porsche, par exemple, mais c'est de, comment on maintient une compassion aussi et un amour profond de tout le monde dans une lutte comme celle-là. Je pense à Frère Roger qui dit « lutter avec un cœur réconcilié ». C'est un peu ça. C'est comment, si je brûle une Porsche, j'arrive pas à faire le lien, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'on doit pouvoir mépriser certaines choses, certains systèmes et certaines richesses en gardant un cap de compassion et de réconciliation avec tous. Mais c'est peut-être un peu théorique, mais je c'est important. Ah, c'est page 15 le texte dont je parle. Lutter avec un cœur réconcilié.
Et moi, je voulais bien juste rebondir sur ton interrogation de est-ce que ce serait pas aux pauvres de se sauver eux-mêmes ou de sortir de la pauvreté eux-mêmes, etc. Aussi, juste avec quelque chose de très théorique, je me dis que voir les choses comme ça, c'est peut-être être encore trop dichotomique. Quoi. Nous, on est riches, eux, ils sont pauvres. Se mettre dans des cases, etc. Et finalement, si on se dit que notre diversité, c'est une richesse, et ben peut-être que c'est justement en agissant ensemble, en réfléchissant ensemble, on a tous, enfin, c'est ce qu'on se disait un petit peu, on a tous à s'apporter mutuellement, quoi. C'est intéressant d'écouter les pauvres, et en même temps, et ben avec ce qu'on a lu, ce qu'on a étudié, ce qu'on a réfléchi, etc., ce auquel on a réfléchi, et ben c'est peut-être l'association des deux qui peut permettre ensemble de sortir et d'aller vers cette communion, cette union, quoi.
Il nous reste 5 minutes. Petite réaction de Gab et après la voix de la Belgique avant tout.
Juste un truc là-dessus. Il y a un truc qui m'a interrogé et je pense que ça serait intéressant qu'on en discute sur le temps qu'on passe à inclure les gens qui sont pas des alliés profonds de cette cause de révolution où les pauvres sont au centre. Et notamment, enfin, tu parlais de l'extrême droite et des cathos d'extrême droite, tu parlais de la compassion aussi pour les riches. Moi, c'est une question que je me pose vraiment sur le fait à quel point il faut qu'on passe notre énergie à ça, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans les milieux cathos qu'on passe beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de faire communion avec des gens qui, de toute façon, nous excluent de la communion ecclésiale dès qu'on fait le moindre petit texte pour dire qu'il faut profaner la propriété privée. Et donc, et du coup, il y a un truc, voilà, il y a un truc, une vraie question pour moi de où est-ce qu'on met le cœur du truc, voilà.
Yes, la Belgique est là. Mais justement, je voulais faire un lien avec l'université d'été qu'on a eu en Belgique il y a un mois, qui avait entre autres interrogé un philosophe belge qui justement parlait de la pauvreté et qui soulignait que la pauvreté, justement, dans l'état du monde et la crise écologique, les crises écologiques et climatiques que nous connaissons, en fait, est la seule solution viable. Non pas une sobriété, parce qu'une sobriété est un terme qui est si vite repris par le capitalisme. On a des entreprises qui vont proposer des plans de sobriété, etc. Et que le seul terme qui ne peut pas être perverti par le capitalisme, c'est la pauvreté. Mais du coup, en vous écoutant, je me posais un peu cette question. Bah, comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut parler de, non pas sobriété heureuse, mais de pauvreté heureuse? Le titre de cette intervention, c'est « Heureux les pauvres, point interrogation ». Et je me demandais, justement, cette tension a été pointée au début de l'intervention. Mais au final, où est la joie? Où est, en fait, vraiment le bonheur dans cette pauvreté, cette joie évangélique? On a évoqué d'ailleurs la critique socialiste par rapport aux chrétiens de ne pas nous attaquer aux structures de pauvreté, aux causes de la pauvreté. Mais en général, le socialisme va justement réfléchir la pauvreté d'un point de vue économique et donc va s'attaquer plutôt aux moyens de production, mais au final va rester dans un modèle productiviste. Et donc, comment faire le lien entre justement cette pauvreté qui est créée économiquement, la captation de la plus-value par les capitalistes et du coup qui laisse tout le prolétariat plus pauvre. Donc comment attaquer cette pauvreté économique, ces structures de pauvreté économique, et d'autre part prôner en même temps vraiment une pauvreté joyeuse, une pauvreté évangélique.
Merci beaucoup. Je sais pas si moi je pense deux petites choses après. C'est dans, par exemple, dans les Fioretti de François d'Assise, il y a un passage où donc ils mendient leur repas avec un de ses frères. Lui, apparemment, François d'Assise, presque personne lui donne, et à l'autre, tout le monde lui donne plein de trucs. Je sais pas pourquoi. Et après, ils prennent le repas ensemble, et François d'Assise, il part dans un délire de louange, disant merci pour cette abondance, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et l'autre, il dit mais il y a rien, enfin il y a presque rien là. Et François d'Assise, il dit mais en fait si, on a la plus belle table vu qu'on a la terre, on a le plus beau plafond vu qu'on a le ciel. En plus, il y a des oiseaux qui chantent, il y a la petite rivière et tout. Et en fait, il y a tout ce qui est gratuit, quoi, qui est impossible à posséder en plus. Le ciel est impossible à posséder. C'est pas la propriété. Donc tout le monde y a accès. Et là, je pense que la pauvreté est heureuse, si ce mot a un sens. Peut-être ça commence par ça, par le soleil qui brille, le cycle de l'eau, des choses comme ça, qui sont des richesses purement communes, quoi. Et j'ai oublié l'autre truc que je pensais.
Moi, j'aurais juste dit la pauvreté, elle est heureuse si elle est choisie librement, quoi. Enfin, c'est une évidence, évidemment. Et encore une fois, c'est peut-être très hypocrite parce que comme on a goûté à la richesse, on sait que c'est cool d'être pauvre, et etc. Et qu'en fait, les pauvres eux-mêmes, on leur fait tellement miroiter que c'est quand t'es riche et que tu peux acheter plein de trucs que c'est extraordinaire. C'est difficile, quoi. Et j'ai pas la solution trop de comment faire. Évidemment, le témoignage, évidemment, enfin. Je pense que pareil, ça commence dans la jeunesse, quoi. Ce dont tu parlais, d'aider les pauvres à prendre conscience de toutes ces injustices et à vouloir eux-mêmes lutter pour ça, etc., c'est très pertinent, quoi. Mais juste, moi, l'autre jour, là, je parlais avec un exilé mineur qui me racontait ça, que pour lui, le bonheur, c'est quand il pourra avoir plein de sous et acheter tout ce qu'il voulait. Et moi, j'étais là, du haut de ma richesse, à lui dire « Non, mais tu sais, moi, je trouve que vraiment la pauvreté, c'est trop beau, au contraire, c'est surnécessaire. » Mais enfin, c'était complètement indécent, là, pour le coup, parce que ça n'a un peu aucun sens. Et que évidemment, eux, avec ce qu'ils ont vécu, c'est normal de vouloir autre chose, quoi. Comment faire pour que les pauvres qui subissent leur pauvreté l'acceptent joyeusement? Enfin, j'ai pas la solution.
Est-ce qu'il le faut? Ben, justement, ils doivent pas l'accepter.
Non, et après, enfin, je pense quand même le mot partage, tout simplement, c'est que lorsque, enfin bon, c'est assez basique, mais si plusieurs personnes partagent des choses en commun, ça fait qu'on s'enrichit mutuellement.
C'est juste pour faire un retour sur une phrase, je vous dis pas d'où ça vient, puis après vous l'avez dit, c'est que le frère de condition modeste tire fierté de son élévation, et le riche de son déclassement. Donc c'est ce double mouvement de ceux qui sont modestes doivent être fiers de leur élévation, c'est clair, mais il faut que les riches tirent fierté de leur déclassement. Et c'est ça la théologie qu'il faut inventer, à mon avis. Il faut inventer une manière de tirer fierté de son déclassement. Et ça, en fait, ça vient de l'épître de Jacques, voilà. Donc dans le canon des Écritures.
Venir sur des choses très terre à terre, parce que on en parlait un peu. L'une des choses qui est compliquée quand on parle de la pauvreté, c'est quand on nomme pas assez les choses, de quoi on parle, pauvreté spirituelle, matérielle, machin. Et on tourne autour du pot, on est tous hyper mal à l'aise avec ça. De toute façon, la pauvreté nous met mal à l'aise et c'est bon, parce que cette injustice nous fait mal aux tripes, donc c'est normal. Mais là, quand on disait celui qui dit je serais bien quand j'aurai plein d'argent, etc. Donc si on parle de besoins essentiels, se loger, se nourrir, avoir une sécurité matérielle vitale, il y a un niveau de sécurité matérielle en dessous duquel on ne peut pas vivre, on est mal, et donc on ne peut pas parler d'élévation spirituelle non plus. En fait, en dessous d'un certain niveau, on peut plus, y a même plus la place pour le spirituel. Il n'y a plus de dignité, enfin voilà, donc là il n'y a pas de problème et on encourage les gens, on ne va pas leur demander de s'appauvrir, enfin voilà, donc ça a très bien dit avec Jacques, ça boucle très bien, il faut qu'on puisse savoir de quoi on parle en fait, voilà, mais après il y a quand même des gens qui sont dans une immense précarité matérielle et qui ont Dieu comme essentiel, ils ont aussi ça, enfin, malgré tout, c'est un mystère, et ils n'ont rien d'autre que Dieu, et Dieu est leur essentiel, mais quand même, on a à tenir de lutter avec eux pour qu'ils aient, on disait, un logement, un toit, à manger, de la sécurité pour leurs enfants, pour avoir le temps de raconter des histoires le soir. Parce que si une maman n'a pas d'argent, elle ne peut pas se poser avec lui, elle ne peut pas se poser avec ses enfants. Et voilà. Enfin, donc il faut tenir l'amour de ces gens, s'émerveiller devant eux, pas leur dire qu'est-ce qu'ils m'apportent, comme c'est beau, comme je suis avec eux, etc. Mais s'émerveiller devant eux, dire comme ils sont beaux, eux, et lutter pour leur, leurs besoins essentiels pour vivre, quoi. Voilà.